Bonjour et bienvenue dans ce podcast Les lois de l'attraction. Je suis François-Xavier, alias FX, et je baigne dans l'univers du recrutement depuis plus de 10 ans, et dans le grand bain, celui de l'hôtellerie-restauration. Depuis mes débuts en 2006, beaucoup de choses ont changé. En quête de sens, candidats et collaborateurs attendent des entreprises qu'elles les fassent progresser, eux et la société. Savoir placer l'humain au cœur de la stratégie d'entreprise est devenu un critère de réussite. J'ai décidé de créer ce podcast pour aller à la rencontre de dirigeants, de DRH, de directeurs recrutement et de voir quelles sont leurs stratégies qui leur permettent d'attirer, de fidéliser et d'inspirer les collaborateurs. C'est parti pour ce podcast autour des lois de l'attraction.
Alors, Talent People, moi j'ai créé Talent People en 2004, novembre 2004. À l'époque, je venais de quitter le groupe Adecco et Job Pilot, qui était un site emploi allemand que je dirigeais en France à l'époque. Mmh. Et au cours de mes pérégrinations, on va dire, dans les pays de l'Est où était implanté Job Pilot, notamment dans certains pays anglo-saxons, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres solutions de recrutement qui existaient que traditionnellement celles qu'on connaissait en France. D'un côté, les cabinets conseils RH au recrutement, et de l'autre côté, les agences d'intérim. Donc, il existait des sociétés de RPO dans ces pays-là, et ça n'existait pas en France.
Donc, RPO, je te laisse te définir.
Recrutement de process outsourcing, c'est l'externalisation de toute ou partie du process recrutement par un tiers, donc, et soit on-site, donc implanté au sein de l'entreprise, soit off-site, c'est-à-dire depuis un de nos plateaux de sourcing center, enfin, un de nos sourcing center.
OK.
Donc, ce modèle économique et ce type d'entreprise n'existait pas en France, donc je n'ai pas inventé l'eau tiède, hein, j'ai créé Talent People donc en 2004. Première année, ça a été compliqué parce qu'il fallait évangéliser le marché un petit peu. Comme j'étais le seul avec mes deux petits bras, c'était un peu long au démarrage. Et puis, quand on parle à un DRH d'externalisation, c'est un gros mot. Il a peur. C'est mes équipes qui vont être réduites, c'est mon pouvoir qui va être diminué, etc., etc. Alors que, en fait, c'est pas le cas puisque c'est de la co-traitance qu'on fait avec les services RH ou recrutement des entreprises. Donc l'aventure a vraiment démarré en 2005 quand on a décroché un premier client significatif qui était SFCF. On a pris en charge l'ensemble de la gestion des candidatures des SNCF. Mm. Et puis après, on a tiré le fil de la pelote de laine.
Et aujourd'hui, aujourd'hui c'est quoi l'état?
Aujourd'hui c'est à peu près 140 clients. Pour Talent People, c'est 13 millions, à peu près 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Et entre 75 et 80 personnes qui se consacrent aux prestations RPO.
OK.
Alors, les prestations de services Talent People aujourd'hui, elles sont en gros trois natures. La première, donc le socle historique, qui est effectivement l'extension des process recrutement. Où là, comme je disais tout à l'heure, on a des équipes qui sont soit chez les clients implantées, ce qu'on appelle des talents acquisition spécialistes, qui vont être chez le client et qui sont…
pour une période donnée. Voilà. Ouais.
Le recruteur en marque blanche du client, en fait. Mm-hmm. Voilà. Ou des sourceurs qui sont sur nos plateaux de Marseille, de Saint-Quentin-en-Yvelines ou de Bordeaux et qui interviennent, donc eux, 100% à distance pour nos clients et qui travaillent souvent en binôme avec nos talents acquisition et spécialistes pour les approvisionner, entre guillemets, en candidature qualifiée qu'ils vont chasser sur le web.
OK.
Donc, ça, c'est le métier de base de Talent People qu'on a décliné depuis 2016 sur tout ce qui est gestion de l'alternance et des stages, puisque les entreprises ont de plus en plus recours à ce type de contrat et ça leur permet de capter des jeunes deep de manière à aller pouvoir les intégrer par la suite dans leurs effectifs. Mais c'est une activité qui est très saisonnière.
Ah bah oui, il y a des rushs. Voilà, c'est deux, trois mois.
La campagne d'alternance, en gros, c'est de mars à août, on va dire. Ouais. Donc, ils n'ont pas les bras suffisants pour gérer ce type de campagne. Surtout dans les grands groupes, d'ailleurs, puisque là, ils gèrent plusieurs centaines, voire milliers d'alternants et de stagiaires. Notre premier client en la matière, c'est le groupe Renault. On gère, nous, jusqu'à 2200 alternants et stagiaires par an pour Renault.
Ah oui.
Voilà. Donc, on va, et ça depuis 2 ans maintenant, et on va au-delà de la partie recrutement, puisqu'on prend en charge également toute la partie administrative, c'est-à-dire la contractualisation avec le candidat, gestion des conventions de stage, des CERFA, des relations avec les OPCO, des relations avec les CFA, des relations avec les écoles, etc. etc.
Qui s'est complexifié en plus, enfin, ça a changé. Donc,
Exactement.
Okay. Exactement. Donc une vraie expertise.
Voilà, donc là, on a aujourd'hui un fort pan de notre activité qui est dédié à l'alternance au stage. Et d'ailleurs, le sourcing center de Saint-Quentin-en-Yvelines est dédié à l'alternance au stage.
Donc, et du coup,
on a 15 personnes.
Ah, ok, dédié à cette activité-là. Ouais,
15 personnes sont dédiées à l'alternance au stage.
Et là, aujourd'hui, on est le 10 avril. On est donc en plein cœur de cette période mars-août alternance. Et comment ça se passe avec le contexte actuel?
C'est le secteur qui souffre le moins chez nous.
Ah oui.
Parce que les entreprises nous disent, de toute façon, en septembre, il faudra intégrer des alternants. Quoi. Ou en octobre, ou plus tard.
Ok.
Intégrer des alternants. Et donc, le sourcing, l'évaluation, les relations avec les écoles, c'est maintenant.
Ok. Donc, tous les clients disent ça. Tous tes clients disent, c'est bon, continue.
Alors, il y en a un ou deux à la marge, effectivement, qui ont réinternalisé toute ou partie de la prestation, mais c'est plutôt les petits clients.
Mais ils réinternalisent, mais ils recrutent quand même. C'est qu'ils n'ont pas stoppé. Ah, ok. Voilà. Ok. Bon, bah, c'est top, ça. Ouais.
Donc, mais par contre, les grands groupes là, comme Renault, que je cite tout à l'heure, eux, ils n'ont pas lâché leur campagne de recrutement d'alternants. Et on gère toujours pour eux aujourd'hui le sourcing de ces alternants à l'heure où je te parle.
D'accord. Et du coup, parce que tu disais relations école, justement, je rebondis aussi sur cette période, enfin sur ces alternants, mais les relations école, elles sont un petit peu modifiées. Enfin, j'imagine qu'il n'y a pas de forum, il n'y a pas. Enfin, j'imagine.
Voilà. Donc là, effectivement, ce qui a disparu, c'est notre rôle de campus manager pour ces entreprises-là. Évidemment, on ne va pas participer effectivement actuellement au forum, au salon, etc. Néanmoins, on est en lien avec les écoles. Néanmoins, elle nous envoie des candidatures et néanmoins, on traite ces candidatures en distanciel, mais on les traite.
Ok, mais c'était déjà peut-être beaucoup du distanciel que vous faisiez, vous, vu que le centre de sourcing est à Saint-Quentin, qui rayonne sur toute la France.
Tout à fait. Nos équipes ont l'habitude de travailler c'est l'essence même aujourd'hui de nos plateaux de sourcing, ils travaillent tous en visio ou par téléphone avec les candidats.
Donc, finalement, vous étiez plutôt bien adapté à ce contexte-là, vous, au final.
Voilà. Alors, ça, c'est vrai pour l'alternance et les stages. Hein.
Ouais.
C'est moins vrai pour la partie RPO classique, où là, beaucoup d'entreprises ont suspendu l'activité depuis mi-mars.
OK. Et juste pour finir sur alternance stage, et après, on passera sur l'autre, mais et comment vous faites avec les salariés des sourcing centers? Pour qu'ils soient.
Ils sont tous en télétravail.
Ah, ils sont tous en télétravail.
On avait anticipé, c'est-à-dire que même avant les annonces de notre président qui annonçait le confinement, deux ou trois jours avant, on avait, c'est le jeudi ou le vendredi, on a déjà mis tout le monde en télétravail chez Talent People.
Donc, les 80 personnes?
Ouais, exactement.
Ah, d'accord. OK. Ouais. Et aujourd'hui, donc, ils continuent à travailler de chez eux sur les campagnes stage alternants.
Certains sont en activité partielle. Hein, donc,
oui, évidemment. Mais au moins, t'en as combien sur les 80 qui travaillent?
Aujourd'hui, on a. Alors, à temps plein, on a un tiers.
OK.
Voilà. Un autre tiers qui est en activité partielle, mais qui travaille donc partiellement à 50% ou à un tiers, etc., etc., en fonction des cas de figure. Et on a un autre tiers qui est sans activité chômage partiel.
D'accord. Donc, du coup, plutôt très positif, finalement, sur tout ce qui est campagne alternance stage. Les entreprises continuent à recruter. Alors, c'est quelque chose qui m'inquiétait, entre guillemets. C'est vrai que on a reçu quelques candidatures de stagiaires, de choses comme ça, un peu désespérées en disant s'il vous plaît, prenez-moi en stage. Et je me disais, mince, c'est vrai que si on condamne tous ces étudiants qui font des études cette année et qui ne peuvent pas faire leur stage de fin d'études ou qui ne peuvent pas envisager une alternance l'année prochaine, c'est vrai qu'il y aura du coup une espèce d'inertie à ce contexte qui va être très dangereuse pour eux. Donc, du coup, les entreprises recrutent des stages, des alternants pour la rentrée. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle.
Enfin, plus les alternants que les stagiaires. Hein.
Plus l'alternance que le stage, ouais.
Voilà. Alors, c'est vrai que les stages de cet été…
Ouais.
Voilà, je pense que c'est les... malheureusement ces jeunes-là vont un peu souffrir pour trouver un stage cet été.
Et tu sais comment ça se passerait pour eux? Enfin, si vous parlez un petit peu aux écoles, justement, vous êtes en contact avec des stagiaires, ceux qui trouvent pas de stage alors qu'ils étaient obligés d'en faire un, ça se décale, j'imagine, dans le temps.
Voilà, en majeure partie, toutes les écoles aujourd'hui essayent de décaler les stages effectivement à la rentrée quand c'est quand c'est possible.
Ok. Et alors pour les autres, donc pour les CDI. Alors, classique, les recrutements plus tradis.
Juste pour terminer par rapport à nos services, donc le RPO avec cette déclinaison en fait sur l'alternance et les stages. Deuxième type de prestation qu'on met en œuvre, et là c'est un département qu'on a créé en 2008, c'est le département gestion des talents, où là on a des psychologues du travail qui interviennent dans la mise en place d'assessment center, de development center pour les entreprises. Assessment center, donc c'est de l'évaluation sur une demi-journée ou une journée qui mélange tests et ateliers mise en situation, d'accord ?
Ok.
De manière à évaluer les soft skills des candidats essentiellement. Mmh. Le development center, c'est dans le cadre de mobilité interne, qu'elle soit transversale ou hiérarchique. Par exemple, dans la gestion des hauts potentiels, nos psychologues, un cas de figure pareil, Matmut, pour lequel on gère l'ensemble des assessment centers pour les cadres et cadres dirigeants de la Matmut lorsqu'ils veulent changer de classe dans leur catégorie de classification ou un poste qui s'ouvre et donc il y a 2, 3, 4 postulants en interne et donc là on va les évaluer, c'est nos psychologues qui vont les évaluer.
Voilà. Okay.
Sachant que si, il y a une particularité de nos psychologues, c'est qu'ils sont aussi habilités par la commission ferroviaire d'aptitude. Donc, ils font passer les évaluations psychologiques pour toutes les fonctions sécuritaires du rail. Donc, il y a très peu de cabinets en France qui font ça. Mmh. Donc, aujourd'hui, on a 4 psychologues qui sont habilités et qui évaluent psychologiquement les futurs conducteurs de train, par exemple, etc.
Ah, super. Ouais.
Voilà. Et la troisième activité, c'est qui est plus récente puisqu'on l'a créée l'année dernière, c'est ce qu'on appelle le freelancer management system. Donc c'est la gestion en fait des freelances pour les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de difficultés de recrutement, du fait que le sourcing était devenu un vrai métier. Ça ne s'adresse pas uniquement aux CDD, aux CDI, aux alternants, aux stagiaires, mais aussi aux freelances. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises utilisent le freelance. Le freelancing en France, c'est 900 000 individus à peu près. C'est plus 110% depuis les 2-3 dernières années.
Ouais.
C'est une catégorie, on va dire ça comme ça, de travailleurs qu'il ne faut pas oublier lorsque l'entreprise recrute. Parce qu'il y a des compétences, notamment des compétences rares en IT, en digital essentiellement, qu'on ne trouve qu'en freelance en fait aujourd'hui.
D'accord.
Donc, on a un département permet la recherche et la gestion des freelances. C'est-à-dire qu'on va simplifier pour l'entreprise également toute la partie gestion de la facturation de ces freelances. Mmh. Parce qu'auparavant, ils faisaient appel à des plateformes qui sont très connues, où ils recherchaient leurs freelances. Donc, ils avaient une facture d'une plateforme, une facture d'une autre plateforme, etc., etc. Donc, les services achats ou les services RH se transformaient en services comptables et géraient de la facturation également.
Ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est complètement différent.
Voilà. Alors là, on va non seulement rechercher le profil adéquat pour l'entreprise, mais nous, on va contractualiser avec le freelance. Et donc, du coup, l'entreprise, par notre intermédiaire, n'aura plus qu'une seule facturation, une seule gestion administrative via Talent People, en fait.
OK.
Pour l'ensemble de ses freelances.
Ça marche.
Voilà, donc ça, c'est les 3 principaux services. Mmh. Et sachant qu'on a créé, parce que nous aussi, on est sur des métiers, les sourceurs, les chargés de recrutement, etc., des métiers qui deviennent pénuriques. Mmh. Donc, on a créé l'Académie des métiers de recrutement. Et tu avais interviewé Julien Chevalier il y a quelques temps, au moment de la création. Donc là, on a notre première promotion de bachelor qui suit son cours.
Oui, à distance.
Alors voilà, les 8 premières semaines qui sont faites à l'école, effectivement, et maintenant elles sont en alternance en entreprise ou en télétravail pour le coup, et elles suivent leur cours une fois par semaine en distanciel, effectivement.
Ok.
Et on lance un master en fin d'année, master talent acquisition spécialiste, Donc voilà, donc, et une deuxième promotion de bachelor. Donc aujourd'hui, il y avait une vraie attente, à la fois nous en interne, on avait une vraie attente pour aller pour recruter et former nos futurs sourceurs en tant que spécialistes. Mais aujourd'hui, on a 50% de la promo du bachelor sont des clients externes.
Hein. Okay.
Donc il y avait une vraie attente et ça existait déjà puisqu'il y avait l'école du recrutement de Laurent. Mais la différence, c'est qu'on voilà, on essaie d'un petit peu plus industrialiser la chose et nos étudiants, eux, ont un vrai titre, un titre RNCP, ils ont un diplôme à l'issue de la formation.
Ok, ça marche. Et donc, du coup, sur la deuxième activité, Assessment Center, là, aujourd'hui, ça continue. Vous avez trouvé des astuces pour faire un petit peu à distance, vous avez des demandes.
Alors, l'Assessment Center, tel qu'on le faisait jusqu'à présent, effectivement, c'était du présentiel, avec des mises en situation et des jeux de rôle. Donc, c'est compliqué de le faire en visio. En revanche, on fait ce qu'on appelle des bilans d'évaluation. Ce sont des mini assessment centers où ce sont des tests qui sont passés en ligne et un entretien visio, effectivement, avec nos psychologues du travail de 45 minutes à une heure. Un entretien qu'on appelle déstructuré, c'est-à-dire que ce sont les mêmes questions qui sont posées dans le même ordre à l'ensemble des candidats, et ce qui permet de les coter le plus objectivement possible entre eux, en fait.
Ok.
Voilà. Donc, l'activité, là, pour le coup, est très au ralenti hein, sur l'assessment center.
Ouais.
Voilà. Et notamment sur tout ce qui est assessment collectif.
Et est-ce que sur les freelances, justement, est-ce que le contexte, là, fait que les entreprises ont besoin d'avoir des freelances spécialisés sur certaines compétences? Ah ben,
sur l'IT digital, ça ne s'arrête pas.
Ouais.
Parce que les gens sont habitués à travailler souvent en mode distanciel. Un développeur qui soit chez lui en train de
coder
ou au sein de l'entreprise, ça change pas grand chose hein. Comme ils ont un management par la data et par le résultat, donc ça change pas grand chose et donc les entreprises, oui, sur la partie IT digital en tout cas, continuent à faire appel à nous. On a eu en début de semaine encore des appels de prospects pour la recherche de.
D'accord. Donc ça, je ne sais pas, l'activité sur freelance, c'est quoi? C'est ISO, c'est la même? Il y en a un peu moins quand même
Alors, c'est compliqué à dire parce qu'on a démarré ça récemment, nous, l'année dernière. Donc, on n'a pas d'historique. On est sur un trend plutôt positif actuellement sur l'IT et le digital. Alors, sur les autres métiers en freelance, que ce soit marketing ou même RH, là, par contre, c'est le calme plat. Mais voilà, mais sur l'IT digital, les projets ne s'arrêtent pas et les entreprises aujourd'hui ont encore besoin de compétences pour travailler sur ces projets et justement pour préparer bien souvent l'après-crise.
Ouais. Et ça, comment il faut préparer l'après-crise alors? Comment toi, il y a certains exemples d'entreprises qui anticipent les choses, qui se préparent, qui font un plan d'action. Tu disais tout à l'heure, c'est le moment aussi de. On peut revenir là-dessus, c'est le moment de penser à son organisation.
Ouais, alors il y a certaines entreprises qui ont compris, alors des gens comme, on peut les citer, SFR, RATP, SNCF, etc., qui sont nos clients et qui poursuivent massivement leur recrutement. Parce qu'ils savent très bien que, ou plutôt en juin, plus tard en septembre, ça va redémarrer. Et un, il ne faut pas qu'ils brisent le lien avec les candidats.
Oui.
Deux, quand ils reçoivent, parce que nous traitons les candidatures depuis les ATS des clients, donc c'est les annonces qui sont publiées sur les sites emploi, enfin les sites carrière des clients, et c'est nous qui traitons ces retours annonces. Donc un candidat qui postule aujourd'hui sur le site de SFR, sur le site de RATP ou de SNCF, il faut qu'il ait une réponse à sa candidature. Voilà, parce qu'autrement, là, l'image de marque employeur en prend un coup, y compris en période de confinement. Donc voilà, certaines entreprises qui ont bien compris la chose et qui continuent quasi normalement leur process de recrutement et maintiennent leurs objectifs de recrutement, et d'autres, effectivement, qui nous ont demandé de suspendre parce qu'ils n'étaient pas organisés pour recevoir les candidats ou est-ce que les managers opérationnels fassent de la visio avec les candidats. Et puis, il y a certains secteurs qui sont qui vont être plus particulièrement touchés que d'autres, hein, donc notamment tout le secteur hôtelier restauration, par exemple.
Ouais. Où c'est plus inconnu, quoi. C'est vrai qu'RATP, SNCF, on se doute bien que dès que ça reprend, ils reprennent. C'est vrai qu'il y a, enfin là, il y a, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres secteurs où j'imagine que quand déjà c'est une inconnue et comment c'en est une autre, quoi. Enfin, voilà, sur quel niveau pas, ou...
ouais. Voilà, ils n'ont pas stoppé ou arrêté définitivement les prestations, ils ont suspendu. Ouais. Des gens comme Burger King, par exemple. Comme métro, par exemple.
Ah oui, bah.
Ils ont dit, bon, voilà, actuellement, ça ne sert à rien. Voilà, on va reprendre dès que la période de confinement sera finie. On va reprendre progressivement à partir de ce moment-là.
Donc, toi, la recommandation pour des entreprises comme ça, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Laisser des annonces ?
C'est maintenant qu'il faut réfléchir. À son organisation en termes de process de recrutement au sein de l'entreprise. Deux, c'est le moment où on va vous demander de faire des économies, de voir s'il n'y a pas d'autres solutions qui existent sur le marché qui vont vous permettre de réduire drastiquement votre coût d'acquisition candidat. Mmh. Et trois, il ne faut pas lâcher le contact avec les candidats, même maintenant.
Ouais. C'est-à-dire que quand tu dis ça, c'est continuer à mettre des annonces, leur dire que pour l'instant, la candidature, elle est étudiée, mais pas traitée, ou elle ne passera pas dans une étape.
Bien sûr.
Oui, l'étape d'après, ou choses comme ça. C'est continuer, mettre des offres quand même.
Il faut que ce soit des besoins avérés, hein, mais effectivement. Je ne vois pas comment demain les entreprises qu'on vient de citer vont s'arrêter du jour au lendemain de recruter. Ils vont peut-être recruter moins parce que le business ne sera pas au rendez-vous. Peut-être recruter moins, mais ils vont quand même recruter. Et quand si aujourd'hui j'ai besoin d'un développeur de n'importe quel langage, demain j'en aurai encore besoin. Et la guerre des talents ne va pas s'arrêter parce que on a une baisse d'activité générale en France.
Et après, c'est vrai que c'est très compliqué de relancer la machine. Si tu coupes si tu fermes le robinet des candidatures, si tu coupes complètement l'activité recrutement, le moment où ça va se relancer effectivement et où on va dire, tiens, on a besoin de 100 personnes, ce que les gens qui ne sont pas forcément dans la fonction n'imaginent pas très bien, c'est le temps qu'il faut pour récupérer un flux de candidatures, se mettre à réétudier et puis arriver à une embauche. Parce que c'est vrai que sur certaines fonctions, imaginer embaucher quelqu'un en dessous de 3-4 mois, en fait, c'est pas possible, quoi. Oui, mathématiquement.
Après, le seul frein aujourd'hui, c'est que les candidats aussi sont également frileux.
Ah bah, j'imagine.
J'ai un CDI, alors je suis peut-être en activité partielle, mais j'ai un CDI, je suis au chaud entre guillemets. Est-ce que je vais donner ma démission maintenant pour rejoindre une entreprise à l'issue du confinement? Pas sûr.
Est-ce qu'il y en a qui font ça? Est-ce que vous observez ça chez certains candidats? Moi, j'avais entendu, je ne sais plus qui me disait ça, qu'au démarrage, c'était un cabinet, et quand ils appelaient les candidats, en fait, les gens les insultaient presque en disant « mais foutez-moi la paix ». Étaient même un peu choqués, quoi, de dire « mais attendez ». Vous recrutez,
quand on nous a insulté, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de portes qui se referment actuellement. Et là, du fait du candidat qui dit, attendez, on va voir ce qui se passe. Rappelez-moi dans 2 mois, quoi.
Oui.
Voilà. Bon, après, on peut les comprendre, mais ça peut être aussi une opportunité quand on est à la maison et qu'on a quasiment que ça à faire. Là je parle du candidat, de prospecter d'autres entreprises pour voir s'il n'y a pas un job qui me correspond plus demain.
Ouais, pour les entreprises, de déjà semer la petite graine du regarder comme c'est chouette chez nous.
Voilà, regardez, nous on continue de recruter, etc. etc.
Ouais. Ok. Et après, j'imagine, est-ce que vous avez des clients qui, à l'inverse, recrutent énormément? Au-delà, tu me disais, les campagnes continues, alternance et tout ça, mais parce qu'on pense à la grande distribution.
Alors nous, on est
ou
pas,
tout le secteur
alors,
de l'alimentaire, de la chaîne de la livraison, de je ne sais pas.
Alors ça, alors donc là, là pour le coup, je vais parler de notre maison mère qui est le groupe Ergalis, qui est donc les agences de travail temporaire Ergalis, qui eux, effectivement, l'activité est très très réduite. Sauf, alors Ergalis, c'est un groupe de staffing hein, spécialisé, et donc les agences Ergalis sont toutes spécialisées voire ultra spécialisées, donc ils interviennent dans le tourisme, la banque, les assurances, le médical, la grande distribution, la restauration, etc., etc. Donc les agences aujourd'hui qui tirent leur épingle du jeu, c'est forcément le réseau qu'on appelle chez nous GD Grande Distribution, où là les augmentations de planning c'est plus 100% par rapport à ce qu'ils connaissent habituellement.
Ouais.
Parce qu'il faut des ELS, parce que il faut dans certains cas de figure des gens pour le rayon à la coupe, etc., etc. En plus, donc là l'activité explose. Le médical, les demandes explosent. En revanche, pas de candidats, parce qu'aujourd'hui une infirmière ne veut plus aller dans un EHPAD, par exemple. Donc on a des dizaines et des dizaines de commandes de demandes clients qui sont non satisfaites faute de candidats. Ou de candidats qui refusent.
Ok.
Là, voilà, pareil. Donc là, c'est les plannings de ces agences-là remontent en flèche. En revanche, effectivement, bah, les agences spécialisées dans le tourisme, il n'y a plus rien. Les agences spécialisées dans la restauration, il n'y a plus rien. Transport logistique, donc l'activité, effectivement, se maintient. Et les autres secteurs, ça dépend des régions et des secteurs d'activité de nos clients, mais l'activité est flat. Effectivement, on a grosso modo 50% d'activité au global en moins. Quoi.
Et du coup, vous faites des synergies? Ceux qui bossaient hier sur la restauration, ils viennent travailler dans le médical ou...
Ah, c'est compliqué quand même.
C'est compliqué, ouais. Surtout sur l'intérim, c'est... où c'est vraiment de la gestion de vivier. Il faut connaître les…
Ouais, c'est compliqué. Et si on prend l'exemple du médical, bah là, ça nécessite souvent des diplômes et des qualifications particulières. Mmh. Donc, on ne peut pas faire de vase communicant entre une agence restauration et une agence médicale.
Ok. Et qu'est-ce que tu imagines, toi, là, pour la suite? Tu disais au mieux juin, au plus tard septembre. Qu'est-ce que ça va changer donc pour les entreprises, toi, tu disais il va falloir faire des… Ça, c'est ce que j'entends assez souvent. On va penser réduction de coûts. Donc, il va falloir, tout le monde a perdu de l'argent, donc il va falloir faire des économies. Qu'est-ce que ça va changer dans le marché de l'emploi, selon toi?
Ben, c'est ce que j'évoquais également tout à l'heure, où je disais qu'aujourd'hui, les entreprises et les directions des achats vont se tourner vers d'autres modèles, comme ceux du RPO, pour chercher à faire effectivement des économies. En RPO, grosso modo, le coût d'acquisition candidat aujourd'hui en interne, c'est, on a fait le calcul, c'est un peu plus de 6 700 €. Le fait d'aller sourcer, évaluer, etc., un candidat, c'est à peu près 6 700 €. Aujourd'hui, nous, on est capable de diminuer d'à peu près 50% le coût d'acquisition candidat. D'accord ? Et je ne parle même pas des prestations d'un cabinet de recrutement qui va prendre entre 15 à minima et 20 ou 25% de la rémunération annuelle du candidat. Donc là, il y a des économies de coûts à faire, effectivement, en passant par du RPO. Il y a des économies de coûts à faire en repensant l'organisation de l'entreprise et la manière de sourcer les candidats. Aujourd'hui, le constat, c'est que quand on passe une annonce sur un job board, on a très peu de retours et très peu de retours qualitatifs.
On a peu de retours qui nous intéressent.
Ouais, voilà. Donc, est-ce que ça, c'est pas une économie aussi à faire? Alors, par contre, les CV tech des job boards, il faut les utiliser. LinkedIn, il faut l'utiliser. Mais c'est chronophage. C'est plus de la chasse, alors que l'annonce, c'est plus de la pêche. Quoi. Je le jette une bouteille à la mer et je regarde ce qui arrive. Donc, faire de la recherche ou de la chasse sur le web, que ce soit dans une CV tech, sur Google, sur LinkedIn, sur Facebook, j'en passe des meilleurs, c'est extrêmement chronophage. Alors, ça coûte moins cher en prix facial, mais c'est très chronophage.
Ouais, et tu payes du temps à
entreprises. Ouais. Voilà. Et il faut former les recruteurs internes des entreprises hein, qui savent bien souvent pas le faire.
Et après, en termes plutôt du, du côté candidat, est-ce que les attentes, elles vont être différentes? Tu disais tout à l'heure, les gens, ils vont tous rester chez eux pendant 2 mois. Ils vont se poser pas mal de questions. Ils vont peut-être aller regarder autre chose. C'est toujours assez dangereux quand tu as plein de collaborateurs comme ça, que tu t'éloignes de toi avec le chômage partiel. Du coup, ils n'ont plus du tout le droit de travailler. Est-ce que ça peut changer quelque chose? On va se recentrer aussi beaucoup peut-être sur la France. On va peut-être, nous, avoir le droit de ressortir, mais pas forcément avoir le droit d'aller à l'étranger ou de faire venir des produits de l'étranger. Est-ce que toi, tu imagines que ça va changer des choses par rapport à ça?
Alors, ce qui change, je crois que c'est l'attitude du candidat qui est comme tout consommateur, hein, si on peut faire une comparaison, va se renseigner sur le produit avant de l'acheter. Jusqu'à présent, enfin, depuis des années, les candidats répondaient à une annonce, ils allaient tout juste voir ce qu'était l'entreprise.
Quoi. Ouais, ils découvraient le premier jour.
C'est super. Hein, bon. Aujourd'hui, ils se renseignent comme un consommateur sur le produit. Ils vont voir sur Internet ce qui se passe. Ils vont voir ils vont voir le site web de l'entreprise. Ils vont voir s'ils ont une page sur Welcome to the Jungle. Pour les plus, notamment les cadres, ils vont voir sur société.com les résultats de l'entreprise, etc. etc. Donc, la démarche du candidat change. Il est moins attentiste, il va plus au-devant en se renseignant pour choisir, en fait, son entreprise. Et donc, ça, c'est la grosse différence. Et le temps du confinement… est propice à ça aussi. Hein. J'ai plus de temps pour aller voir le site carré de l'entreprise, aller voir société.com, me renseigner sur l'entreprise, quels sont ses concurrents, quel est son marché, etc. etc. Donc, je pense que alors, c'est pas vrai pour tous les métiers, mais essentiellement, je crois que cette attitude-là du candidat, que je comparais à un consommateur, mais c'est exactement ça, est en train de changer.
Et ça va l'accentuer avec cette période où les candidats ont beaucoup de temps. Ils vont encore plus pouvoir faire le benchmark, étudier, regarder.
Exactement. Okay. Exactement. Mmh. Voilà. Donc voilà. Et pour les métiers de l'IT, du digital, là c'est encore particulier parce qu'ils sont sursollicités. Donc effectivement, quand on les appelle, ils disent oui, ok, d'accord, ok, j'ai compris, vous existez, votre client existe, c'est super, je reviendrai vers vous quand ça me plaira. Quoi.
Ouais. C'est ça. Ouais. Ça ne changera pas trop. Ou ça va s'accentuer encore un petit peu plus. Ok, on a fait un petit tour. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter? De toute façon, maintenant, on attend et puis… On attend que ça reparte, tous.
Exactement. Voilà. Ouais. On attend les annonces lundi de notre président, on va voir ce qu'il va nous dire en termes de durée sur la période de confinement. De toute façon, même si ça reprend effectivement au mois de mai, ça ne reprendra que progressivement. C'est pas parce qu'il n'y a plus de confinement que d'un seul coup, les entreprises vont dire « tac, il faut que je recrute 200 personnes tout de suite là maintenant ».
Surtout que tout le monde, même ceux qui seront restés chez eux, je pense, auront envie de cette petite trêve estivale pour aller se promener à droite à gauche, prendre un peu l'air avant de signer un nouveau boulot dès que ça repart, quoi. Enfin bref. Ok, top, merci beaucoup Jean-Jacques.
Mais de rien.
Et puis à bientôt. Bonne journée.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Lois de l'Attraction. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode qui promet d'être passionnant. Si vous êtes sur Apple Podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles, ce serait vivement apprécié. Si vous souhaitez participer à ce podcast, me suggérer un invité ou me faire vos remarques, écrivez-moi sur fx@yessir.fr, fx@yessir.fr. À très bientôt dans les lois de l'attraction.